Vous écoutez
RMC. Tout de suite, la vente de l'OL. Analyse économique.
Bonjour Emmanuel Petit, vous êtes professeur en sciences économiques à l'université de Bordeaux.
Il ne faut pas se fier un petit peu aux idées reçues. Je ne suis pas vraiment la personne qu'on décrit à chaque fois.
Where is the casque for John?
Alors, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que cet écart entre la théorie et les faits, c'est justement lié aux émotions qui ne sont pas prises en compte?
Il y a une levée de bouclier au niveau de l'ECA, de tous les grands clubs européens, qui risquent d'avoir une bulle spéculative et expansionniste d'ailleurs.
Définitivement, le football a été pris en otage par les financiers.
Are you okay? And are you happy to be here?
Eh bien, Emmanuel Petit, merci pour cet éclairage sur l'économie.
L'inflation risque d'être terrible, elle l'est d'ailleurs à l'heure actuelle.
Ces
déclarations, c'était il y a plus de 10 ans.
Bravo Manu, quel visionnaire.
On regarde aujourd'hui, on
en analyse.
C'est dingue.
Alors on rappelle qu'il y a très peu de montage. Hein. C'est vraiment Emmanuel Petit.
Ah oui, oui,
expert en
économie. Bien sûr qu'il y a
de montage. Très peu.
Il s'appelle Emmanuel quand même. Ouais. Allez, s'appelle Manu Petit.
Mais oui, bien sûr.
C'est un homonyme.
Moi je croyais que c'était toi.
Non. Mais tu le connais.
C'est... Non, mais pour de vrai.
Oui, c'est Emmanuel.
Ah, sérieux?
Mais c'est pour ça que t'as fait un montage drôle.
Okay.
Bon, en tout cas, je suis content qu'après 5 montages, tu viennes de percuter.
On lui dit, il a un homonyme et il dit, ah, mais non, mais c'est sérieux, là.
Petit, c'est comme Dupont, tu prends le calepin, il y en a 25 000.
Bah oui, mais Emmanuel Petit, il n'y en a pas 25 000.
Le calepin ou le
calepin? Si, il y en a plein d'Emmanuel Petit.
Ah, Emmanuel Petit.
Oui, il y en a plein, ouais.
Je pense que c'est le bottin que tu prends, plus que le calepin.
Ouais, bah, ça a compris, on s'en fout, quoi.
Bon, alors, Michel, c'est ça? C'est le bottin où il y a les noms.
Le bottin.
Voilà, très bien.
Le bottin. Ouais.
Bon, on va essayer de devenir sérieux. On est donc dans la ligne droite finale, la dernière ligne droite pour la vente de l'OL à l'américain John Textor. Tous les détails sur la vente sont sur rmcsport.fr. Gros boulot d'Edouard G. Si vous voulez avoir tous les détails financiers, allez-y. Les voyants sont au vert puisque Textor a réussi à mobiliser les 468 millions d'euros nécessaires. Et sur cette somme, 86 millions d'euros vont servir à augmenter le capital du club. De quoi relancer donc financièrement l'OL et en plus de mettre un souffle nouveau, une nouvelle vision. Alors cette vente est-elle forcément une aubaine selon vous? Appelez-nous au 32-16. On peut, à contrario, mettre en avant le fait que l'ADN lyonnais va peut-être disparaître, que Jean-Michel Lolas a longtemps représenté une garantie de compétence et qu'il va peut-être être remplacé au bout d'un moment, même s'il va assurer la transition. Jérôme, est-ce que cette vente, c'est une chance ou non pour l'OL, pour le club?
Franchement, je suis dire que ce n'est pas une chance, ça serait critiquer gratuitement Textor. Dire que c'est bien qu'il rajoute de l'argent, ça peut pas être néfaste à un club de toute façon de rajouter, d'augmenter le budget. Mais je pense pas qu'aujourd'hui les problèmes de Lyon, ça soit d'un point de vue budgétaire. Bien, je trouve que ce club a été très bien géré dans tous les cas financièrement parlant, mais qui se sont endormis sur les dernières années, et je le répète, endormis. Peut-être que Jean-Michel Aulas avait une autre stratégie, voulait développer le groupe OL plus que l'équipe de football masculine, que lui aussi certainement a fatigué après avoir tout gagné au début des années 2000, d'avoir rivalisé avec les meilleures équipes européennes, même s'il n'a pas gagné avec des champions, qu'il n'a pas fait de finale de Ligue des Champions, mais n'empêche que ils ont fait des sacrés coups sur les débuts des années 2000 et ça a duré jusqu'en 2010-2012. Et puis derrière, derrière ce club a une autre stratégie. Il y a eu le stade, il y a eu le départ de certains joueurs importants, retrouver dans un premier temps l'ADN lyonnais avec beaucoup de joueurs formés au club. Ça a été néfaste pour gagner des titres parce qu'ils en ont pu gagner depuis 10 ans. Derrière, là, ils sont partis dans une autre stratégie il y a 2-3 ans en se plantant sur beaucoup de joueurs, sur des entraîneurs. Donc ça a coûté très cher pour continuer à faire évoluer le club. Aujourd'hui, ils sont revenus à un petit peu d'ADN lyonnais avec les retours de Tolisso et de Lacazette, le prolongation de contrat de Cacré entre autres.
Ils n'ont pas trop investi sur le mercato.
Mais ils ont pas investi parce qu'il y a eu cette vente, Jean-Louis, et que Jean-Michel Aulas, peut-être qu'il s'est dit, écoute, la vente, maintenant, je vais récupérer un peu d'argent.
Un peu
beaucoup d'argent.
100 millions ou pas?
Non, mais un peu beaucoup d'argent, t'as raison, Manu.
Et tant mieux pour lui, d'ailleurs.
Et que, de toute façon, il faut bien finir au bout d'un moment. Donc, est-ce que c'est la bonne personne, John Textor, par rapport à sa nationalité? Il faut pas faire une généralité. Mais moi, je suis méfiant avec les Américains. Voilà, parce que aujourd'hui,
adapter leur culture du sport en Europe, c'est
compliqué.
Pas gagné.
C'est compliqué. Et en plus de ça, quand tu sais que il y a Tony Parker qui est derrière, Donc la culture américaine, certainement qu'il amène des choses, et avec toute son expérience, il a bien, c'est bien normal.
Alors on ne sait pas trop quel rôle il aura.
Oui, mais, nouvel OL, mais est-ce que c'est possible de ramener cette culture américaine à la culture européenne comme ça dans le football? Bah moi je te dis que non. Et donc il y a un décalage de ce côté-là, et en général, ça fait pas bonne,
donc t'as quand même
bonne utilisation.
Tu dis pas les yeux fermés, c'est une aubaine ce qui se passe.
Pas du tout, parce que encore une fois, je te dis, c'est pas un problème d'argent aujourd'hui à Lyon. C'est juste d'investir l'argent que tu reçois. Ils ont vendu des joueurs depuis X années.
Pas complètement d'accord avec toi.
Bah, vas-y. Pourquoi?
Parce que certes, il y a des actifs du côté lyonnais avec la construction de nouveaux stades également. L'OL,
le groupe OL,
le groupe OL d'une façon générale. En France et à l'international. Donc quelque part, ils ont quand même des garanties à ce niveau-là, et je trouve que il manque justement d'une structure financière pour pouvoir être compétitif avec les très grandes d'Europe. C'est l'écart qu'il y a à l'heure actuelle en Ligue 1 entre le PSG et Lyon, quoi, aujourd'hui.
Mais parce qu'ils le veulent pas, Manu.
Mais
parce
oui, qu'ils mais pourraient. Justement, je sais pas s'ils pourraient
mais
s'aligner.
Ils ont vendu. Mais tu te rends compte ce qu'ils ont vendu là, juste moi, sur Paqueta et Guimaraes.
Écoute, moi je vois simplement, c'est que ces dernières années, ils n'ont fait que vendre leurs meilleurs joueurs à chaque fois pour engranger les grosses plus-values.
Eh ben oui, mais
continueront.
Et ils vont continuer.
Je pense qu'ils vont continuer dans ce sens-là. Donc c'est pour ça que je me dis, est-ce que lui va arriver avec la volonté justement de franchir une étape supérieure et de concurrencer le Paris Saint-Germain déjà sur la Ligue 1, et pourquoi pas après revenir sur la scène européenne et pouvoir revenir à la table des grandes d'Europe.
Pas du tout. C'est pas trop dans la culture américaine.
Ouais. Écoute, moi si j'en tire les conclusions de ce qui se passe en Angleterre, il y a du bon et du moins bon. Sur les investisseurs étrangers, notamment américains.
Bah, Manchester United.
Bah, quand Boehly arrive et qu'il rachète Chelsea et qu'il dit ça serait bien de faire le Nord contre le Sud, il comprend pas du tout la spécificité. Exactement. Du foot anglais.
Alors, Jean-Michel.
Non, mais moi je suis extrêmement méfiant, et pour rebondir sur les derniers propos de Jérôme et de Manu, surtout de Manu, quand je regarde bien aujourd'hui le paysage des grands clubs européens, des grands clubs de ceux qui, et on peut pas dire que les fonds de pension américains, qui sont propriétaires à droite et à gauche de certains clubs en Espagne, en France ou en Angleterre,
c'est pas un fonds retour,
premier rôle. Joue les premiers rôles.
Captain, c'est pas un faux vautour. Hein. Je crois d'ailleurs qu'ils ont 8 ans pour pouvoir rembourser la dette. Donc il y a quand même 8 années.
Il n'y a pas pire fonds que celui qui te met en pleine confiance et qui, à la sortie, fait ce qu'il veut. Les fonds vautours sont ceux, au moins on sait ce qu'ils veulent, mais les autres aussi. Mais ils ne sont pas riches.
C'est quoi l'alternative, Captain?
Mais attends,
présidents de clubs français veulent vendre à des étrangers à l'heure actuelle.
Manu, parce que à l'instant T et à court terme, ils y trouvent eux leur intérêt.
Ah oui, on est d'accord.
Eux leur intérêt. Mais les fonds de pension, qu'ils soient vautours ou pas vautours, aujourd'hui ne jouent pas les premiers rôles dans le football européen.
C'est pas King Street à Bordeaux.
Manchester City, ce n'est pas un fonds de pension.
Ah non, c'est les Glazers. Ils ont fait un levier pour que ça soit le club qui rembourse sa dette.
Et le Paris Saint-Germain, ce n'est pas un fonds de pension. Okay. Et eux, ils sont toujours dans les meilleurs clubs européens. Les autres, un coup oui, un coup non, ils disparaissent, ils reviennent, ceci, cela. Et puis, les grands clubs, l'un n'empêche pas l'autre. Tu peux ne pas être supporté par un État comme le Paris Saint-Germain ou Manchester City ou un fonds de pension et avoir des résultats. C'est le cas de Real, c'est le cas du Bayern, qui régulièrement, depuis des dizaines d'années, sont au sommet. Donc, j'attends avec curiosité de savoir si M. Textor va renforcer l'équipe et va permettre à l'Olympique Lyonnais de franchir un cap, ou s'il ne va pas accélérer le mouvement et continuer à vendre les actifs du club. J'attends, j'en sais rien, je ne connais pas, je suis pas dans leur cerveau.
S'il fait ça, il risque d'avoir des émeutes à Lyon quand même.
S'ils vont les actifs du club.
Ah bah vu les rapports conflictuels et houleux qu'il y a eu ces dernières années entre les supporters et la direction de l'OL. Parce qu'on a, on a du mal à voir justement quelle était la politique sportive. Donc, si vraiment ils franchissent ce cap-là, je pense que
Après, on parle des autres investisseurs étrangers. J'ai l'impression quand même que Textor, il a l'air un peu plus solide.
Oui,
oui. En plus, déjà, il est supporté par un groupe qui est très très riche. Ouais.
Déjà, oui, et puis il connaît un peu le foot. Tu vois,
il est très riche, il ne va pas mettre des milliards. Après, il va mettre déjà des.
Bah,
il met déjà,
300 millions, lui.
Quand je vois les chiffres.
Le montant total, c'est 468. Après, tout ne vient pas que de sa fortune personnelle.
Non, et puis il y a un autre.
C'est pas de sa fortune personnelle. C'est ce qui m'inquiète.
Ouais, bon,
parce qu'il est allé pêcher à droite et à gauche. Et
comme
ça me rappelle des mauvais souvenirs.
Comme la plupart. Oui, oui. Après, il y a aussi le fait que son discours.
Cet rapprochement, c'est pas très encourageant. Enfin, on verra.
Mais il y a aussi des chefs d'entreprise qui arrivent avec la dette aussi, hein. En s'endettant beaucoup.
Ouais, ouais. Après, et puis il y a quelque chose. Et moi, je fais attention aussi à ça. Il y a le discours qu'il a. Alors après, ça peut être juste de façade. On est d'accord, mais il est ambitieux.
Oui.
Ben, il a pris conscience que Lyon n'existait plus sur le championnat de France, qu'il n'existait donc plus sur la scène européenne.
Il y a eu des classements ces dernières années.
Et que il a envie de remettre ça, remettre Lyon à sa place. Mm. Donc, est-ce que c'est une stratégie où il va s'y tenir ?
Je suis pas sûr qu'il y a un an, Monsieur Textor s'inquiétait du sort de l'Olympique.
Ah ben oui, oui, mais peut-être qu'il savait pas aussi qu'il pouvait racheter l'Olympique Lyonnais.
Je me trompe peut-être, mais bon.
Non, mais t'as raison, Jean-Michel. Mais de toute façon,
reste de très près aux résultats de l'Olympique Lyonnais depuis 10 ans.
Il faut rester vigilant avec ce genre de d'investisseurs.
Il veut rivaliser avec le PSG en tout cas. Ça fait partie des interviews qu'il a données.
Tant mieux.
On va continuer le débat dans une seconde en donnant la parole aux supporters lyonnais qu'on n'a pas entendu encore. Antoine est là au 32-16.
Ouais, il va nous dire ce qu'il en pense.
Est-ce que la vente de l'OL est une aubaine pour votre club, supporters de l'OL? 32-16, à tout de suite.
RMC, 18h-20h, Roten sans flamme.
Jean-Louis Tour, Jérôme Roten.
19h17 sur RMC, toujours dans Roten sans flamme. On continue nos débats sur la vente de l'Olympique Lyonnais. On parle de ça avec Manu Petit, avec Jean-Michel Larquet, avec Jean-Louis Tour. Jean-Louis, à 19h30, on fait un fait entrer l'accusé sur l'arbitrage vidéo.
Oui, exactement. Suite aux propos de Thierry Henry, c'est le ring des supporters.
Non, c'est ring des supporters.
Oui, pardon, à 19h30.
Parce que là, j'étais sûr de gagner encore.
Sur la VAR ?
Oh, bah oui.
La VAR est-elle vraiment un progrès?
Et moi, Thierry Henry Bihan, face à moi, tu vas voir, je l'envoie dans les camps.
Il ne peut plus venir face à toi, parce que Thierry Henry Bihan, j'ai l'impression que tu l'as fâché, là, à force.
Bah là, je pense que j'ai demandé son départ, donc il n'est pas prêt de venir.
Bah, il peut, hein.
Bah, après, il viendra quand il sera libre. Non, parce qu'il va bientôt dégager, hein. Parce que quand je dis quelque chose, il va partir.
Oui, tu crois. En poste, il est le bienvenu dans Roten sans flamme. Même quand on incrimine les gens, même quand on les critique de façon virulente, ils sont les bienvenus pour répondre. C'est ça RMC, c'est ça Roten sans flamme.
Non, mais moi, c'est Thierry Henry que je veux parce que je comprends pas qu'ils viennent pas là.
Et ben, voilà. On en reparlera.
Et vu que Manu en parle bien, Manu, il peut m'aider, je pense.
Je vois pas comment il peut ne pas venir maintenant.
Au prochain repas 98.
Mm-hmm. Mais il y est pas, Henry, au repas.
Bah, il est champion du monde, non?
Que j'ai compris.
Vas-y, envoie le truc.
Il va dire next. Donc next. Là, ce sera à 19h30. On est sur Lyon pour l'instant. La vente de l'OL est forcément une aubaine. Antoine nous rejoint au 32-16, Jérôme.
Salut Antoine.
Antoine.
Bonsoir à tous.
Salut Antoine, bienvenue. Ouais. Tu fais quoi dans la vie, Antoine?
Moi, je travaille dans l'informatique. Je suis chef de projet informatique.
D'accord. Bon.
Voilà. Écoute, je suis pas gestionnaire de club, mais bon.
Ouais. Bon, on n'a rien à gratter, alors on va te parler. On va.
Ouais, désolé,
on va essayer de te faire parler du thème. Non. qu'est-ce que tu penses donc? Est-ce que toi, déjà, t'es content de cette vente de l'OL? Est-ce que tu penses que ça va redonner une bonne bouffée d'air frais à l'Olympique Lyonnais?
Content, je sais pas, parce que en réalité, bon, sur du long terme, on sait vraiment pas ce que ça va devenir. Mais à court et moyen terme, faut pas oublier qu'on était un club qui est déjà en fait coté en bourse depuis plusieurs années maintenant, et on a toujours eu du coup une direction globale qui a toujours été un peu différente des autres clubs. Donc déjà, on devait répondre à des actionnaires, des choses comme ça, bien avant que ça soit même des Américains. Et donc je suis pas certain en réalité qu'on va avoir tout de suite une révolution sportive. Pour moi, si Textor et toute sa team est arrivée, c'est parce que justement Lyon est un club qui est stable financièrement, qui a d'autres activités, qui fait de l'entertainment avec tout ce qu'il y a autour. Et c'est pas forcément sur le sportif. L'idée de nous dire après, c'est rattraper le PSG. Ça, c'est des discours de façade qu'il a eu après avoir l'idée de racheter le club, comme disait Jean-Michel. Donc, je suis pas vraiment certain qu'à court terme, les choses vont réellement changer. Après, il va falloir voir lorsque, dans pas très longtemps, Jean-Michel Aulas quittera la direction du club, parce que ça arrivera bien un jour. Là, peut-être que la direction sera différente. Mais pour être honnête, ouais, mon propos, c'est de dire que pour le moment, je suis pas vraiment certain que les choses vont changer, quoi, sportivement.
Bah, c'est donc inquiétant, ce que tu nous dis.
Je dis ça de manière un peu résignée, mais. par rapport à tout ce qu'on voit ces dernières années, comme le mot que vous avez utilisé tout à l'heure, on observe un déclassement de l'OL depuis un moment, mais c'est parce qu'on répond à une logique de groupe un peu financière. On l'a encore vu cet été, on vend Paqueta à 60 millions, sachant très bien que cet argent n'allait jamais servir à acheter d'autres joueurs. C'est comme ça, parce qu'on a un club, comme je dis, aujourd'hui on était un club déjà coté en bourse, qui répondait à des exigences différentes que d'autres clubs.
Même si t'es coté en bourse, le sportif est important. Si tu veux que ton action soit bonne, si tu veux réussir à vendre des joueurs plus tard, il faut que le sportif marche.
C'est un peu la logique.
Mais ça peut pas se faire en opposition non plus.
Bien sûr, c'est pas en opposition, mais on rentre quand même plus dans une logique. Enfin, on peut pas se permettre de faire n'importe quoi sur le marché des transferts, peut-être par rapport à d'autres clubs, parce qu'on a tout ce qu'il va y avoir autour. Donc on peut se permettre de vendre autre chose que simplement un projet sportif où faut. Faire un projet comme Lille l'a fait lorsqu'ils ont été champions de France. On est sur un truc qui est complètement différent. Enfin, pour moi, c'est mon avis, mais donc nous on vend un truc à Lyon aujourd'hui avec le stade, tout ce qui se construit autour, l'activité, l'aréna de basket qui va arriver. On a une piscine à vagues dans le stade. C'est des choses qui n'ont quand même pas de sens.
Oui, mais Antoine, à côté de ça, si t'étais dans un club où vraiment on ne pensait pas aux sportifs et qu'aux financiers, Peter Bosz, il serait déjà plus là. Il a fait 8e l'année dernière, ça marchait pas, etc. Il aurait déjà sauté. Ça montre bien quand même qu'on essaie de donner sa chance aux sportifs.
Et ça montre pas aussi peut-être qu'on n'aime pas forcément prendre de risques. Parce que ça fait un moment aussi qu'on n'est pas du genre à virer nos entraîneurs, parce que justement, on aime bien cette stabilité. Nous, elle nous plaît bien, cette stabilité-là.
Ouais, et puis... Ou Jean-Louis, moi je suis pas d'accord avec toi.
On n'a pas envie peut-être de payer des indemnités.
Si tu retournes la chose à l'envers, c'est exactement ce que dit Jean-Michel. C'est que tu veux pas payer deux années.
Ouais, mais le manque à gagner, si tu finis encore dixième, il va être énorme.
Mais la preuve,
ça va être plus important que les indemnités.
Franchement, est-ce que t'as senti l'année dernière avec cette saison pourrie de l'Olympique Lyonnais, est-ce que t'as senti que le club là, c'était des acharnés sur cette saison, que absolument faut retrouver la Ligue des Champions dans les discours, dans les actes, dans le recrutement.
Non.
En fait, non. Ils se sont dit, bon, bah, écoute, on va continuer à donner la chance à Bosz. Je dis pas que Bosz, c'est le problème. Moi, je pense que il faut être plus large et voir l'effectif. En effet, quand tu perds tes meilleurs joues et que tu les remplaces pas, c'ont problématique pour n'importe quelle équipe.
Ils peuvent me dire ce qu'ils veulent,
Jean-Louis. C'est juste un constat. On a été dans des clubs. Quand t'es ambitieux, tu perds tes meilleurs joueurs parce que la vente est intéressante, parce que c'est pas une critique. Laisser partir Paqueta, Guimarães. Écoute, si les mecs, ils veulent partir, qu'ils y aillent. Mais par contre, il faut avoir un plan B, il faut avoir un plan C, et eux ils ont rien, et eux ils te disent ah oui mais l'effectif il est intéressant, et puis regardez, on a remplacé, mais on va faire de la place pour un tel, pour tel jeune, pour ceci, ce genre. Reine Adélaïde, on va le relancer. Non mais c'est pas le problème de Reine Adélaïde ou les autres, mais franchement, quand t'es Lyon aujourd'hui et que t'as des ambitions, comme le dit Textor, de vouloir concurrencer le Paris Saint-Germain dans X mois ou X années, que t'as Toko Ekambi milieu gauche, que t'as des milieux de terrain, je vais pas tous les citer, ou que t'as Malo Gusto arrière droit, c'est sûr que à terme ça va être très compliqué.
Parce que c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, on a des bons et des contre-exemples. Il y a des investisseurs étrangers richissimes qui sont arrivés dans certains clubs et qui ont fait franchir des paliers au club et qui aujourd'hui font partie du gratin européen.
Pour ça,
il y en a d'autres qui ont pris des culbutes pas possibles et ils se sont retrouvés dans un cauchemar sans nom. Donc
tu penses à qui? Tu penses à Chelsea par exemple?
Chelsea, Manchester City, Manchester City.
Ils ont mis 10 ans, 12 ans.
Mais c'est pas grave, ils ont gagné deux fois la Coupe d'Europe en l'espace de 10 ans.
Manchester United.
Même Manchester United, la fronde est tellement importante avec les Glazers parce que justement c'est le club qui rembourse l'emprunt qu'ils ont contracté. Donc ils ont été encore plus loin dans la logique financière.
Antoine, merci d'être venu.
Merci Antoine, en tout cas.
Merci à vous.
Et bon courage.
Bonne saison.
Et bonne piscine à vagues.
Non, faut attendre de voir, les gars. À ton nom de voir,
faire des vagues, c'est sympa avec.
À ton nom de voir, ce qui va se passer avec l'OL.
J'imagine Jean-Michel Aulas sur une planche, là, sur une piscine à voile.
Ouais. D'ailleurs, c'est pas anodin le fait qu'il lui ait demandé de rester à la présidence pendant les 3 années à venir avec une clause. Si jamais il se fait virer sur les 3 années à venir, il a une clause de 10 millions d'euros, je crois.
Pourquoi c'est pas anodin?
bah, ça veut dire que quelque part, on veut quand même laisser l'emblématique Aulas à la tête du club, oui, même si c'est
les a mis dans les obligations pour la vente.
Voilà, exactement.
Possible aussi, mais je pense que c'est un paratonnerre avec les supporters. Voilà. Ouais,
tu sais, les gens, quand ils arrivent avec leur argent, en général, ils veulent bien commander.
C'est plus trop un paratonnerre avec Jean-Michel Aulas.
Il a moins d'énergie.
Les supporters, bah oui, au bout d'un moment, ils se rendent compte. Regarde, Antoine,
mais il a le droit aussi de récupérer des bénéfices de travail énorme qu'il a fait.
Bien se entendre, bien sûr.
De vivre aussi dans
mais ça y est, c'est fait.
Mais tu peux partir comme les joueurs, Manu aussi. Quand le joueur il est tout là-haut, tu peux aussi partir quand tu es tout là-haut. Tu n'es pas obligé de dégringoler et puis bien se rendre compte que, bah, en fait, tu es complètement lessivé, quoi. Tu n'y arriveras pas. Et je pense très honnêtement qu'il est en total décalage avec le football d'aujourd'hui, Jean-Michel Aulas. Et depuis X mois, X années.
Dans une seconde, lui est bien connecté avec le football d'aujourd'hui. C'est Thierry Henry qui s'est plaint de la VAR. Alors, on va débattre dans le ring des supporters. Selon vous, la VAR est-elle vraiment un progrès pour le foot? À tout de suite.
Retrouvez Roten sans flamme en direct chaque jour dès 18h sur RMC. RMC Football. Samedi 4 mai à 15h au stade de la Mosson à Montpellier, c'est la finale de la Coupe de France féminine. Le Paris Saint-Germain affronte le FC Fleury 91 pour un match au sommet. Qui décrochera le titre? Réservez vos places sur billetterie.fff.fr. PSG Fleury. Finale de la Coupe de France féminine le 4 mai à Montpellier avec RMC.